Alors, je voudrais juste introduire cette journée par quelques repères bibliques. Il est de coutume dans le GBU de prendre normalement un texte. Je pense que ceux qui font les DAB, les discussions pour la Bible, ça commence à fonctionner. Et je ne vais pas faire de la même manière aujourd'hui parce que ça m'a été difficile de trouver vraiment un texte sur ce thème et peut-être prendre plusieurs repères. Je m'arrêterai sur différents textes sans forcément les approfondir, mais je pense que vous pourrez les reprendre après chez vous. Et je vais suivre simplement le déroulé de la journée, c'est-à-dire comment mieux les comprendre, alors d'un point de vue pour le coup spirituel et biblique, et pour après mieux accompagner. Donc je m'arrêterai dans un premier temps sur les origines dès la chute, et puis aussi la solution que nous avons en Jésus-Christ, voir aussi que l'addiction, ça ne concerne pas que les autres, ça peut aussi nous concerner nous. Et puis aussi comment mieux accompagner après les personnes qui sur notre chemin sont en situation d'addiction. Alors, comme on fait parfois, on va sur Wikipédia pour connaître quelques définitions. Et ici, c'était intéressant, c'est pour ça que je l'ai relevé, parce que je trouve que l'intérêt de cette définition, c'est aussi par rapport à la dimension, on va le voir, biblique. Donc, d'après Wikipédia, le terme addiction est d'étymologie latine, addicere, dire à. Dans la civilisation romaine, les esclaves n'avaient pas de nom propre et étaient dits à leur pater familias. Le terme d'addiction exprime une absence d'indépendance et de liberté, et donc bien un esclavage. Et c'est effectivement un thème qu'on va retrouver dans le texte biblique. Et par la suite, donc, la même définition continue en disant, selon l'étymologie addictus, alors il y a deux étymologies pour le coup, qui en bas latin signifie adonné à, ce terme était utilisé en droit romain pour désigner la situation du débiteur qui, incapable de payer ses dettes, et là pour le coup on rejoint un terme très biblique, se trouvait adonné à son créancier. Ce dernier avait alors le droit de disposer entièrement de sa personne comme d'un esclave. Il s'agit en quelque sorte de la contrainte par corps. Donc on retrouve ici des thèmes de domination, d'esclavage, voire de dette, qui est vraiment la terminologie qui est reprise pour parler notamment de la libération et du rachat. Alors le mot, à ma connaissance, hein, sauf erreur de ma part, addiction, si vous prenez une concordance, ça paraît pas tel quel dans la Bible, mais en revanche, ce qu'on vient de dire là est très présent tout au long de la Bible. Alors, mieux les connaître, et la première chose, je pense, qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle d'addiction, comme pour le mal en général, quel que soit c'est le rapport avec l'intrusion du mal dans la nature humaine. Ça, je pense, c'est important de l'avoir à l'esprit, que ça n'est pas, je dirais, à l'origine, hein, mais c'est une conséquence de la chute. Et je m'y arrête là, même si je pense qu'on connaît quand même les textes, parce que ça permet de bien comprendre, d'un point de vue biblique, les conditions qui créent ou qui vont créer l'addiction. Il me semble que trop souvent, on a l'esprit, quand on parle du péché, en particulier de la chute, qu'il s'agit d'un problème éthique, souvent d'ailleurs à connotation sexuelle, en tout cas dans l'histoire de la chrétienté, ça a été malheureusement souvent compris ainsi. Alors que le mal, l'intrusion du mal, le récit de la chute donc dans Genèse 3, est plutôt le récit du refus de Dieu, ou comme certains l'ont dit, d'une filiation manquée. La chute est avant tout un acte de désobéissance qui n'affecte pas l'homme dans son état ontologique, c'est-à-dire dans sa nature humaine, mais qui l'atteint dans quelque chose de plus profond, sa relation à Dieu, sa relation au Créateur. Et je pense que, alors, après moi je ne suis pas un spécialiste de l'addiction, mais je pense que quand on touche à l'addiction, on touche aux questions de relation. C'est pourquoi le mal dénature le rapport de l'homme avec tout son entourage, à commencer par le rapport qu'il entretient avec lui-même. D'ailleurs, il y a un détail assez connu dans le récit de la biblique, hein, de la chute qui attire notre attention, c'est le fruit défendu. Je pense que vous vous souvenez de ce passage dans Genèse 2, verset 16-17, hein, « Mange librement, dit Dieu à Adam, les fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal, de celui-ci n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » La connaissance interdite est représentée dans le récit par un élément de la création. Et quand on parle d'addiction, on parle aussi d'usage, mauvais usage, de certains éléments de la création. Comme le signale Henri Blocher dans son livre « Révélation des origines », ce détail indique que c'est toujours dans l'usage des créatures que l'homme exerce l'autonomie qu'il a prétendu ravir. Et cet usage va devenir déviant dans le cadre de l'addiction. Alors qu'avant la chute, et donc je fais référence ici au passage où Adam et Ève aussi sont dans le jardin d'Éden, hein, l'homme est dans le registre de l'être et de l'harmonie, c'est-à-dire il est dans le registre de la relation avec Dieu et de l'harmonie. Après la chute, il va tomber dans le registre de l'avoir et du pouvoir. Et ce sont ces éléments, me semble-t-il, qui vont créer les conditions de l'addiction. Alors pour peut-être faire un peu un saut avec la situation dans laquelle nous sommes, je vais citer ici Jacques Ellul, qui dans son livre « Le bluff technologique » décrit cet homme déchu, hein, cet homme qui se prend lui-même finalement pour le créateur, c'est-à-dire qui vit de manière autonome. Hein. Le mot « autonome » signifie une loi pour soi-même, donc avec cette rupture d'avec Dieu. Eh bien, cet homme qui se prend lui-même pour homme et pour Dieu, il le décrit comme un être fasciné, halluciné, un être qui s'est créé un environnement tellement envahissant, suggestif et attractif qu'il ne peut continuer à vivre sur le mode de la distanciation, de la médiation, de la réflexion, mais seulement sur le mode de l'immédiateté, de l'évidence et de l'action hypnotique. Donc il conclut trois aspects de l'absurde au sens essentiel. Et là, il me semble qu'on a un peu les conditions de l'homme moderne qui, je pense, vont le conduire, entre autres, à des comportements d'addiction. Alors, pour revenir au récit de la Genèse, on sait qu'après la désobéissance, donc ce refus de Dieu, cette filiation manquée, Adam et Ève sont tous deux chassés du jardin d'Éden. Cain va tuer son frère Abel, au chapitre 4 de la Genèse, et désormais le cycle du mal est désormais enclenché. À partir de là, la nature humaine, et ça, je voudrais insister là-dessus parce qu'on ne l'a pas toujours rappelé dans l'esprit, à partir de ce moment-là, à partir du récit de la chute, la nature humaine est comme infectée, on pourrait presque dire par un virus qui lui est étranger, mais qui va désormais le conditionner dans son être tout entier, et toute personne est concernée par ce virus, cette maladie. Mais elle n'était pas là au départ, elle est venue après. Alors cette emprise du mal va prendre dans le récit biblique souvent, pas uniquement, hein, mais souvent la forme de l'addiction. Et parmi les nombreux textes, je choisis ce passage dans Ésaïe 5, 11. « Malheur à vous, qui courez de bonheur après les boissons enivrantes et qui vous attardez le soir excité par le vin. » D'ailleurs, c'est un peu l'image qu'on avait retenue pour ce flyer sur l'addiction. Donc une humanité, hein, Isaïe décrit ici une humanité addicte, hein, qui ne peut pas se passer de vin. Mais il est intéressant de noter la conséquence de cette situation pour le prophète dans le verset suivant, verset 12. « Des lyres et des luttes, des tambourins, des flûtes animent vos festins où le vin coule à flot. Mais vous n'avez pas un regard pour ce que l'Éternel a fait, et vous ne voyez pas l'œuvre qu'il accomplit. » Vous voyez ici que dépendance ici à l'alcool, et indépendance vis-à-vis de Dieu, on le voit dans la deuxième partie de ce verset, hein, « Vous n'avez pas un regard pour ce que l'Éternel a fait », vont de pair. C'est cette autonomie qui était présente dès la Genèse. Mais juste avant, au verset 8 du même chapitre, Ésaïe attirait déjà notre attention sur une autre forme de dépendance. « Malheur à vous, qui joignez maison à maison et ajoutez champ à l'autre au point d'occuper tout l'espace et d'être seul dans le pays. » Alors, ce n'est peut-être pas ici une question d'addiction à proprement parler dans ce verset 8, hein, mais c'est quand même une question de dépendance. Qu'on soit donc dépendant aux possessions matérielles ou à l'alcool, non, ce que je voudrais dire, c'est que la dépendance aux possessions matérielles qui est exprimée ici au verset 8, hein, crée des conditions de l'isolement et sans doute aussi des conditions qui vont favoriser par la suite l'addiction qui est mentionnée au verset 11. En tout cas, dans les deux cas, l'objet du désir, que ce soit dans l'alcool ou les possessions matérielles, vont devenir une fin en soi. Alors, dans ce tableau finalement sombre, hein, qui est celui que l'on connaît, dans lequel finalement on est nous-mêmes, hein, je dirais, on fait partie de cette nature déchue, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que dans la mesure où l'addiction s'inscrit d'un point de vue biblique, hein, dans le sillage de la chute, dans la conséquence de la chute, ça veut tout simplement dire qu'elle ne fait pas partie de la nature humaine telle que Dieu l'a voulu au départ. Si on veut véritablement voir le reflet biblique de la nature humaine, il faut se tourner vers la personne de Jésus-Christ qui l'a assumé pleinement et qui n'a jamais connu le péché. Ce mal s'est immiscé de manière, on pourrait dire, scandaleuse au moment de la chute, et ce mal sera vaincu à la croix. Alors, je vais y revenir quand je vais parler dans un instant de la solution qui nous est donnée en Jésus-Christ. Mais c'est important de réaliser qu'après la chute, l'humanité est comme défigurée par le péché qui affecte tout homme et qui affecte tout homme dans sa totalité. C'est-à-dire que tout en nous est affecté par le péché. Et pourtant, cette humanité défigurée continue de porter en elle l'image de Dieu. Une image détériorée, mais une image qui est toujours présente. Alors on pourrait penser que l'addiction ne concerne que les autres, autrement dit que l'addiction concerne que le non-chrétien. Et je pense que on se leurre, en tout cas c'est mon expérience pastorale peut-être ici qui parle, on se leurre quand on pense ainsi. Beaucoup de textes bibliques d'ailleurs vont nous interpeller, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est dans 1 Corinthiens 10, 12. Et il me semble que refuser d'admettre l'addiction quand cette addiction est avérée, hein, sous prétexte qu'on appartient au Seigneur, risque de nous conduire à refouler cette addiction, alors que l'Évangile nous invite plutôt à la confesser, à porter cet état à la lumière du Christ qui nous a pardonné et qui nous a réconciliés avec le Père. Si l'addiction ne concernait que les chrétiens, Paul n'aurait pas dit, par exemple, aux chrétiens de Corinthe, parce qu'il s'adresse ici à des chrétiens, hein, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Alors, un tout petit point d'exégèse, ici, le terme, on le voit d'ailleurs en français, hein, « Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit » est au passif. Et dans son commentaire, Robert Somerville, qui a été professeur d'éthique à la fac de Vaud, nous dit ceci, et je trouve intéressant son commentaire. Quand je crois dominer la situation, en proclamant mon droit, en me donnant la liberté de faire ce qui me plaît, je suis en réalité dominé. Je me soumets malgré moi à une autorité, si bien que je détruis ma liberté. Je pense que là, quand on est confronté à des personnes en addiction, on a un peu cette image qui est présente. Alors, quelqu'un justement qui travaille avec les personnes en addiction a défini l'état d'addiction de cette manière. Une addiction est manifeste lorsqu'on n'est plus en contrôle, de la dépendance, mais quand cette dépendance nous contrôle. On est en état d'addiction dès qu'on ne peut pas se passer d'une dépendance sans l'aide d'autrui. Et pour le coup, je me suis dit, c'est la définition de l'humanité, d'un point de vue biblique. Je dirais que, si au sens large, on pourrait dire qu'on est tous en état d'addiction, puisque la Bible nous dit très clairement qu'on ne peut pas se passer du péché par nous-mêmes. Et que la solution au péché vient d'ailleurs, et qu'il va falloir, enfin l'aide au sens avec un grand pas, hein, de Dieu lui-même qui est venu jusqu'à nous. Alors, là naturellement, vous connaissez bien le message de l'Évangile, hein, qui nous le dit. Je voudrais juste lire, sans trop le commenter, mais peut-être en trois temps, ce passage qui, me semble-t-il, le résume assez bien dans Romains 7, à partir du verset 14. Et je lirai en trois temps, donc je vais m'arrêter entre les versets, mais jusqu'au chapitre 8, verset 4. Donc Romains 7, verset 14, et je lirai d'abord 14 à 20. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu Mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Et dans ces versets, Paul décrit la situation de l'homme qui découvre son esclavage à la lumière de la révélation divine, c'est-à-dire à la lumière de la loi de Dieu. C'est l'homme qui cherche à plaire à Dieu, parce qu'il connaît sa volonté, mais qui se rend bien compte qu'il n'arrive pas par lui-même à plaire à Dieu, il est dans l'incapacité par lui-même de plaire à Dieu. Le péché s'impose à lui comme une dépendance dont il ne peut pas se défaire. Et ça, ce sont les versets 21 à 25 qui nous le précisent, donc je poursuis ma lecture. Lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être, elle combat la loi qu'approuve ma raison, et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis dans ce que je vis concrètement esclave de la loi du péché. Vous voyez la lumière dans ce texte qui va être repris au chapitre 8, c'est-à-dire que la bonne nouvelle ne peut venir que de la personne de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, j'en viens maintenant à l'espérance, l'espérance qui est la nôtre en tant que chrétien, qui naturellement nous concerne, nous, dans notre état de pécheur, voire d'addiction, si c'est le cas, mais qui aussi est important d'avoir à l'esprit quand on conduit des personnes en situation d'addiction, même si celles-ci, je dirais, ne sont pas directement au bénéfice de cet évangile, parce que eh bien, c'est aussi le propre d'un réseau comme celui-ci, c'est de faire le lien entre notre foi et puis notre activité professionnelle. Alors, dans le chapitre 8, et je ne lirai ici que les quatre premiers versets, l'apôtre Paul va enseigner sur le contenu de cette espérance qui libère de l'emprise du mal. Donc verset 1 à 4. « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. C'est par la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec le Christ, avec Jésus-Christ, pardon, c'est la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ à libérer de la loi du péché et de la mort. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ à libérer de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème du mal, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons, non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. Et là, dans ces versets, il y a quatre éléments qui, me semble-t-il, sont vraiment une bonne nouvelle concernant les personnes en addiction et qui concernent naturellement le péché en général. Il s'agit d'abord du fait que cet évangile proclame la libération de toute condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes déclarés non coupables. Pourquoi ? Parce que Christ s'est lui-même chargé de nos péchés et à la croix, il a aussi porté nos addictions. Cette bonne nouvelle, cette espérance, proclame aussi la libération de l'emprise du mal. Donc le verset 2, « La loi de l'Esprit qui donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ a libéré de la loi, du péché et de la mort. Jésus le déclare lui-même dans Jean 10. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Donc c'était vraiment un message de libération. Un autre élément, me semble-t-il, important au verset 3, c'est le fait que le Christ a pleinement assumé notre humanité. C'est-à-dire que Dieu est venu assumer notre humanité dans sa plénitude. Dieu a envoyé son Fils, son propre Fils, avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. L'apôtre, l'auteur des Hébreux, va même plus loin. Et c'est souvent d'ailleurs un texte qui est important, en tout cas dans ma pratique pastorale. J'ai souvent eu l'occasion de le lire avec des personnes qui étaient en addiction. C'est ce texte dans Hébreux 4, versets 15 et 16. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine plénitude. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au moment opportun. Cette dimension de l'humanité, c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus par rapport à la chute, hein, la vraie humanité, la humanité restaurée qui se trouve pleinement en Jésus-Christ. Et puis enfin, le quatrième élément ici intéressant, c'est de noter que c'est dans la dépendance, c'est vraiment une question aussi de dépendance, mais pour le coup, c'est dans la dépendance à l'Esprit que nous pouvons vivre cette pleine libération. C'est sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ, à la croix, que nous sommes libérés. Et il est vrai que dans notre vie de tous les jours, cette libération va prendre plutôt peut-être la forme d'un processus, avec ses luttes, parfois ses échecs, mais aussi ses victoires. Mais c'est une réalité qui nous est, je dirais, déjà acquise en Jésus-Christ. Donc le chrétien, et c'est, je crois, la situation dans laquelle nous sommes face au mal et aussi par rapport à l'addiction, le chrétien est invité à combler le vide intérieur, non par l'addiction qui isole et enferme, mais par la présence de Dieu qui libère. Vous connaissez peut-être ce texte, on n'a pas toujours à l'esprit la première partie du verset. Comprenez ce que le Seigneur attend de nous, ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit, la plénitude, la dépendance. Et vous avez pas mal d'autres textes qui dans la Bible vont nous le dire, hein, réussissez-vous toujours dans le Seigneur, donc cette présence de l'Esprit. Mon cœur dit de ta part, cette fois dans le psaume 27, « Recherchez-moi, je te recherche, ô Éternel. » Alors, rechercher Dieu, c'est sûr, c'est le rechercher au travers de la lecture de la parole de Dieu, je ne vais pas dire le contraire, dans le cas des GBU, hein. la prière, une vie aussi d'église. Mais c'est aussi, je pense, rechercher Dieu, c'est aussi vivre sa vie de disciple dans la vie de tous les jours, y compris dans ses loisirs, y compris dans le cadre de son travail, nous souvenons que, comme Paul le dit dans 1 Timothée 4:4, tout ce que Dieu a créé est bon, rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. Autrement dit, c'est pas, je dirais, le vin qui est un problème en soi. Si je le prends modérément, avec reconnaissance, avec justement cette dimension que je vis dans une relation avec Dieu, eh bien j'en ferai un bon usage. Donc c'est important, je pense, que de ne pas avoir cette vision dichotomiste de la réalité entre d'un côté l'aspect spirituel et de l'autre l'aspect matériel. Là, je vous renvoie à certains ouvrages comme « Vivre dans un monde créé » de Ilya Yeager, qui, je pense, le montre très bien. Vivre de la grâce qui libère, c'est un combat. Il ne faut pas se leurrer, ça ne nous est pas naturel. En avoir conscience est essentiel quand on est amené à accompagner des personnes en situation d'addiction. Je le dis parce que dans un deuxième temps, je m'arrêterai sur l'accompagnement. Et je pense que c'est important d'avoir cette notion de sa propre vulnérabilité, de sa propre fragilité, pour pouvoir justement être à l'écoute et dans un meilleur accompagnement de l'autre. Et il me semble-t-il que c'est vraiment l'enseignement de Jésus tout au long de l'Évangile, hein, y compris dans le Notre Père. Hein. Ne nous expose pas en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est une réalité à laquelle nous sommes confrontés dans notre vie de tous les jours. L'auteur des Hébreux nous dit, et il va peut-être plus loin, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. » Il va loin. « Le combat consiste à résister à la tentation, en particulier, me semble-t-il, celle de vivre de manière autonome, c'est-à-dire en mettant Dieu à la périphérie de notre vie et non plus au centre. » Et le même auteur aux Hébreux insiste sur le mot « aujourd'hui ».« Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » C'est aujourd'hui et non pas demain. Et dans son livre, je pense qu'il y en a quelques exemplaires, « Disciples 24 sur 24 », David Brown fait remarquer que le mot « aujourd'hui » est essentiel pour le chrétien, et il utilise ici, pour le souligner, l'association Alcoolique Anonyme, qui l'a bien compris. Et David Bond donc, cite cette association. « Un membre de l'association des Alcooliques Anonymes ne jurera jamais de ne plus boire. Il ne fait jamais de promesse qu'il engagerait à ne pas boire demain. Le membre des Alcooliques Anonymes reconnaît que son plus grand problème est de rester abstinent dans le moment actuel. Les 24 heures d'aujourd'hui sont la seule période de sa vie où il peut accomplir quelque chose en regard, au regard de son problème. Hier a disparu, demain n'est jamais là, mais aujourd'hui, se dit-il, aujourd'hui, je ne prendrai plus un verre. » Alors, comment, pour mieux accompagner, je serai un peu plus court sur cette deuxième partie, mais c'est quand même le but de notre rencontre, à mieux comprendre, donc j'ai essayé de donner quelques repères pour cela, pour mieux accompagner. Nous sommes amenés et appelés à accompagner ceux qui souffrent, y compris d'addiction, et pour nous qui croyons en Jésus-Christ, cet accompagnement ne peut pas être déconnecté de notre espérance chrétienne qui nous anime. Et c'est ça la difficulté, c'est-à-dire d'être confronté à des personnes qui ont des problèmes qui nous dépassent, et pour lesquels, d'ailleurs, les soignants ne sont pas forcément censés répondre à toutes les besoins. Mais comment est-ce que je peux être témoin de Jésus ? Je pense, et je m'arrêterai sur quatre éléments. D'abord, dans son regard, dans le regard que nous portons sur autrui. Le regard qu'on porte sur les autres peut très vite devenir un regard de jugement, parce que justement, nous sommes libérés. Moi, j'ai voulu insister sur le fait que, tout en étant libérés en Christ, on n'est jamais à l'abri, on est aussi concerné par cette vulnérabilité. Et pour illustrer ce regard que nous sommes amenés, que l'Évangile et Jésus en particulier nous invite à porter sur les autres, je m'arrêterai sur un texte. Alors on n'a pas le temps de le lire parce qu'il est un peu long, mais vous pourrez le relire chez vous, où la question du regard me semble essentielle. Dans ce passage de Luc 7, 36 à 50, l'évangéliste nous rapporte ce moment où Jésus est invité chez un pharisien du nom de Simon, quand une femme pécheresse, probablement d'ailleurs une prostituée, vient se tenir derrière Jésus en pleurs. Et elle pleure tellement qu'elle finit par mouiller les pieds de Jésus, qu'elle essuie avec ses cheveux avant de verser un parfum qu'elle a apporté. Alors c'est intéressant d'analyser dans ce récit les regards. La reconnaissance de cette femme et l'amour qu'elle témoigne à Jésus par son geste montrent que quelque chose de radicalement nouveau s'est produit en elle. Ce n'est plus une prostituée qui se présente à Jésus, c'est une femme qui a expérimenté la grâce de Dieu dans sa vie. Dieu lui a remis une énorme dette. Et je reviendrai sur cette parabole que Jésus mentionne en s'adressant à Simon de la dette. Cette dette, c'est la dette de la culpabilité qui l'empêchait d'avancer. Et on peut se douter que chaque regard que cette femme croisait dans la ville était un regard de désapprobation qui l'accusait et qui finalement, comme le regard de Simon, lui rappelait qu'elle était une femme pécheresse. Mais un jour, elle a croisé un autre regard. Le regard qui a transformé sa vie. Le regard de Jésus qui accorde son pardon aux pécheurs repentants. La reconnaissance qu'elle exprime et l'attachement à Jésus par ses larmes et son geste témoigne d'une conversion, témoigne d'une repentance intérieure. Sa démarche aux yeux de tous témoigne d'une démarche authentique. Son regard a changé. Le pardon a transformé sa vision du monde. Le regard qu'elle porte sur elle-même n'est plus le même. Elle se sait aimée. Elle se sait pardonnée. Elle ne se laisse plus enfermer dans la mauvaise réputation qui la maintenait jusque-là prisonnière de son passé. Une porte d'espérance s'est ouverte dans sa vie. Simon, le pharisien, lui, juge cette femme. Pire, il a un regard qui va juger le Christ lui-même. Il croit voir ce que Jésus ne voit pas, alors qu'en réalité, c'est lui qui est aveuglé par sa propre justice. Et malheureusement, parfois, on peut être concerné par ce regard de ce pharisien. En voyant cela, le pharisien, donc Simon, qui avait invité Jésus, se dit, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche, que c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche. Donc, Simon ne voit qu'une prostituée, là où Jésus voit une femme pardonnée. Et c'est là où Simon a besoin de l'œuvre de la grâce dans sa vie. Alors, Jésus va lui raconter une petite histoire, comme il aime le faire. L'histoire des deux débiteurs, petite parabole. Il était une fois un prêteur à qui deux hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leurs dettes, il fit cadeau à tous deux de ce qu'ils devaient. « À ton avis, dit Jésus aux pharisiens, lequel des deux l'aimera le plus ?» Simon répond, « Celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. » Voilà qui est bien jugé, dit Jésus, qui tout de suite après lui pose cette question, « Tu vois cette femme ?» Autrement dit, quel regard maintenant tu portes sur cette femme ? Et c'est la question, je pense, qui se pose à nous quand on est confronté à des personnes, notamment en addiction, à quel regard est-ce que je porte sur les autres ? Quel regard est-ce que je porte sur les personnes en addiction ? Et ce regard dépend beaucoup du regard que je porte sur moi-même. Si je porte un regard autosuffisant sur moi-même, parce que Christ m'a libéré, finalement, je suis un peu dans cette dimension, cette démarche de la propre justice, eh bien, j'aurai sans doute beaucoup de mal à me rapprocher des autres, et les autres vont le sentir. Ça n'est pas pour rien si l'apôtre Paul nous rappelle ceci, « Ne vous surestimez pas, soyez honnêtes, et mesurez votre valeur selon le degré de foi que Dieu vous a donné. » Donc l'Évangile nous invite, et ça ne prend pas beaucoup de temps, je pense que ça se ressent dans la relation, hein. L'Évangile nous invite à porter un regard animé de la grâce. Et ça se cultive. Un regard qui relève et non pas qui rabaisse comme celui de Simon. Ensuite, me semble-t-il, on est amené aussi à accompagner les autres en tant que chrétiens par notre écoute, ce qui demande une certaine disponibilité. Or, vous allez me dire, en tant que soignant, on est très peu disponible, parce qu'on a énormément de choses à faire, un infirmier, une infirmière, un médecin, il a très peu de temps. Alors, en écoutant, vous allez dire, oui, bon, d'accord, il faut avoir du temps, tout ça, mais c'est impossible, il ne connaît pas mon métier. Et c'est vrai. Mais par contre, je pense qu'on peut tout à fait cultiver un esprit de disponibilité à l'intérieur de soi. Jésus lui-même était très occupé. S'il y a quelqu'un qui a été occupé, c'est Jésus. Et pourtant, Jésus a su cultiver cette dimension de la disponibilité à l'intérieur de lui. Et si vous allez au chapitre suivant de l'Évangile de Luc, donc le chapitre 8, vous verrez ce passage bien connu où Jésus est appelé par quelqu'un de la famille de Jaïrus parce que sa fille est mourante. Et si vous vous souvenez, à un moment donné, Jésus se laisse arrêter par cette femme atteinte d'une hémorragie. Donc il se rend disponible pour cette femme alors qu'il y a une urgence. Hein, c'est un peu l'ambulance, il doit aller très vite parce que l'enfant va mourir. Et il sent, alors le texte dit, hein, « Quelqu'un m'a touché, j'ai senti qu'une force sortait de moi. » Et il va se rendre disponible pourquoi ? Non pas parce qu'il a fait ce miracle, parce que ça s'est fait à son insu d'une certaine manière, hein, mais parce qu'il veut relever aux yeux de tous cette femme qui, à cause de sa perte de sang depuis 12 ans, est rituellement impure dans la société d'Israël. J'ai eu l'occasion d'exercer le ministère d'aumônerie dans un hôpital aux États-Unis pendant une bonne année. Et je me suis rendu compte, je pense que la place est comme ici, hein, que les soignants étaient des gens très, très, très occupés et ne pouvaient pas faire face à tout. C'est vrai que dans cet hôpital, il y avait vraiment, on n'est pas dans le cadre de la laïcité, hein, il y avait vraiment une très forte présence de monnaie. On était à peu près, je crois, une vingtaine dans l'hôpital. Donc, moi, mon ministère était auprès des soignants, mais aussi auprès des malades. Alors, j'étais sur la côte est des États-Unis, à Winston-Salem, et c'était un lieu qui avait été très affecté par le tabac, puisque les cigarettes Winston viennent de là. Et je me souviens d'une fois où j'ai eu affaire à une personne en phase terminale de cancer des poumons, et qui me parlait beaucoup de sa culpabilité, parce qu'elle avait beaucoup fumé, comme d'ailleurs beaucoup de gens que j'avais rencontrés dans cet hôpital et dans cet endroit. Et il est évident qu'à ce moment-là, l'écoute ne doit pas être une écoute, je dirais, de jugement, mais ça doit être une écoute qui est là dans la disponibilité pour rappeler la grâce, et qui aussi est amenée à être accompagnée, quand c'est possible, par une parole de réconfort, une parole d'encouragement, une parole qui relève. Donc le regard, l'écoute, et aussi, me semble-t-il, la parole. Et parmi les textes bibliques qui me parlent beaucoup sur la parole, il y a ce verset, ce proverbe, « Des pommes en or décorées d'argent, voilà ce que sont des paroles dites à propos. » Une parole d'encouragement fait toute la différence. Il ne s'agit pas ici de sermonner les gens, je dirais, mais simplement, et ça ne prend pas, je dirais, du temps, mais être là dans cette parole d'encouragement, une parole qui restaure, qui relève, qui redonne confiance en l'avenir. N'oublions pas cette parole de Jésus, hein, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si notre cœur est rempli d'espérance, c'est pour ça que j'ai voulu insister dans la première partie sur cette dimension de se remplir de l'Esprit de Dieu, de la présence de Dieu. Si mon cœur est rempli de cette espérance, forcément ça va transparaître au travers de mon regard, au travers de mon écoute, mais aussi au travers des paroles que je pourrais donner. Une présence remplie de la présence de Dieu va être paisible, et ne serait-ce que cela, dans la chambre d'un malade, ça fait toute la différence. Et ça, j'ai pu vraiment le ressentir dans ce ministère que j'ai pu avoir pendant une année aux États-Unis. Alors, me concernant, j'ai surtout exercé un ministère pastoral, et il est vrai que quand j'ai eu affaire à des personnes en addiction, mon ministère consistait à, par mon écoute et par ma parole, à rappeler, ou à, disons, réorienter la personne vers le chemin de la grâce. Parce que la personne qui vit en addiction, non seulement elle est enfermée, et l'image qui vient à l'esprit, c'est souvent l'image de la prison, à cause de son addiction, elle ne peut pas s'en sortir par elle-même, mais en plus, quand elle va voir le pasteur, c'est parce qu'elle est enfermée dans une culpabilité, donc elle est fermée à tout le tour, parce qu'elle se dit « je ne peux pas en sortir, Dieu finalement ne peut pas m'aider parce que j'ai péché, et donc quelque part il y a cette vision assez négative du Dieu qui va condamner. » Donc ce rappel de la grâce, on n'est pas là pour juger, mais pour accompagner, une parole de réconfort, d'empathie, d'encouragement, un conseil avisé qui peut aider à remettre sur le bon chemin. Ça, je dirais que c'était mon ministère, donc bien que quand on est dans le cas de... je dirais d'un soignant auprès de mon chrétien, on ne peut pas avoir cette même liberté. Alors, le dernier élément que je voudrais mentionner, je terminerai par là, c'est la prière. Dans la prière. Alors, j'ai tout à fait conscience que vous ne pouvez pas prier avec vos malades. Mais par contre, rien ne vous empêche de prier pour eux en leur absence, de les porter dans la prière. Et je pense que quand on est animé par cette espérance, on peut aussi voir de grandes choses s'accomplir. Donc, pour conclure, l'Évangile nous invite à vivre notre espérance chrétienne là où Dieu nous place, avec sagesse, mais aussi avec foi, en lui faisant confiance, en s'attendant à lui. L'Évangile ne nous demande pas de porter les problèmes des autres. Christ les a portés lui-même. Il ne nous demande pas non plus de résoudre les problèmes pour les autres, mais simplement, me semble-t-il, de cultiver sa présence en nous, en vivant nous-mêmes dans la dépendance de l'Esprit, animé de la grâce qui libère. Et c'est ça, me semble-t-il, qui nous rendra disponibles pour être témoins du Christ, là où Dieu nous envoie, auprès notamment des personnes en addiction. Voilà, merci pour votre écoute. Merci.